Cours de philosophie première, la personne humaine, par le Père Marie-Dominique Philippe, le 24 juin 1999 à Saint-Jean-d'Or.
Nous avons, après l'analyse des différents éléments du conditionnement, du développement de la personne humaine, nous essayons de préciser les différents types de personne humaine, là où il y a vraiment un mode particulier de l'harmonie de ces différents éléments. Parce qu'en réalité, ces différents éléments se retrouvent, mais plus ou moins développés. On ne peut pas tout développer de la même façon. Au fond, c'est là où on touche la richesse de la nature dans son développement personnel. Et le développement personnel implique des choix. Et tout choix implique une orientation et l'abandon d'une autre orientation. Autrement, il n'y avait pas de choix. C'est pour ça que c'est toujours pénible de faire un choix. Non ? Est-ce qu'on doit dire à l'autre, hein, attends, je choisis celui-là. Il y a toujours dans tout choix une préférence. Même si on dit après, je prendrai ça. Il y a une préférence au moins dans le temps. Et ça suffit quelquefois pour qu'on oublie l'autre. Parce que le temps est un facteur d'oubli. Vous savez bien, quand il n'y a plus de couple pendant un certain temps, on oublie. Facteur d'oubli. C'est la chose tragique, ce qu'on appelle les vacances scolaires. Il n'y a pas de vacances au plan religieux, il y a des vacances scolaires. Alors, il n'y a pas de vacances au point de vue religieux, donc on grandit au point de vue spirituel. Puis il n'y a pas de nourriture mâchée. Il n'y a plus que la nourriture spirituelle, où on tombe souvent sur des os assez difficiles à dépasser. On corrogne autant qu'on peut, mais on reste un peu immobile. Alors, c'est toujours un moment où l'équilibre est différent. L'équilibre de la croissance de la personne humaine. Alors, nous avions vu, et il faut bien situer ça, nous avons vu, avant la découverte de l'existence de Dieu, la possibilité de la personne humaine. La personne humaine se noue au point de vue métaphysique. Mais cette personne humaine, découverte au niveau métaphysique, demande la découverte de l'existence de l'être premier, de Dieu, pour atteindre d'une façon stable, fixe, le point de vue de la personne humaine au niveau de la sagesse. Il n'y a pas de sagesse tant qu'on n'a pas découvert l'existence de l'être premier de notre Créateur. Il n'y a pas de sagesse. Il y a des simili-sagesses, mais il n'y a pas de sagesse. Il y a des attentes de la sagesse. Il y a déjà vraiment notre personnalité qui se noue dans ces différents éléments qu'on a vus. Parce qu'il y a une vraie finalité. Imparfaite, mais une vraie finalité. L'amour d'amitié. L'amour d'amitié est une vraie finalité pour l'homme. La vertu n'est pas une vraie finalité, mais l'amour d'amitié est une vraie finalité. C'est la grande différence entre la vertu et l'amitié. Et il y a aussi, au-delà de l'amitié, la recherche de la vérité. Mais la recherche de la vérité, vous voyez, montre l'état d'imperfection de la personne humaine avant la découverte de Dieu. Avant la découverte de Dieu, je reste dans un état d'imperfection. Et je le sens très fort dans la recherche de la vérité. Je le ressens aussi dans l'amour d'amitié. Alors, c'est la découverte de l'existence de Dieu qui va me permettre d'avoir une vraie personnalité humaine par la contemplation. Dès que je découvre l'existence de Dieu, Dieu, je ne peux que le contempler. Je ne peux pas l'analyser. Et donc, je passe d'un régime de connaissance analytique à un régime de connaissance contemplative. Et ceci est capital à bien comprendre. Toute science est analytique. La sagesse est sapientielle. C'est pour ça que saint Thomas dit que l'habitus de sagesse est un habitus contemplatif. Habitus contemplativus. Cela, vous pouvez en avoir l'évidence. Et vous devez chercher à en avoir l'évidence. Je dis bien, hein, pas seulement dire oui, on a dit ça, ça doit être vrai. Il faut en avoir l'évidence. Pour que tout de suite, dès qu'on voit l'inverse, ah non, non, on saisisse immédiatement l'erreur. Oui. Parce que c'est un des gros problèmes d'aujourd'hui, si ce n'est pas le problème majeur d'aujourd'hui. C'est pour ça que le pape a écrit son encyclique sur le point de vue de la foi et du point de vue de l'intelligence humaine, la raison. Tant qu'on n'a pas découvert l'existence de Dieu, il n'y a pas de sagesse. Je demeure dans l'analyse. La différence entre le maître et le professeur réclame la science, le maître réclame la sagesse. Oui, c'est la conséquence immédiate. Donc, première personne humaine, le contemplatif, qui relève de l'esprit. Et l'esprit de l'homme et de la femme ont peut-être des modalités diverses dans leur exercice, mais ont le même caractère spécifique. Il n'y a pas une sagesse féminine et une sagesse masculine. Dieu est le créateur de l'âme de l'homme et de la femme. C'est le même Dieu. Et c'est la même découverte contemplative pour l'homme et la femme. Donc, il y a une unité personnelle dans la diversité de l'épanouissement de la nature humaine. Les cheminements peuvent être très différents, mais il y a l'unité au terme. Et le dépassement de l'amour d'amitié par le point de vue de la recherche de la sagesse, par le point de vue de la recherche de la vérité. C'est pour ça que la recherche de la vérité est absolument nécessaire pour la découverte de l'existence de Dieu. Il faut aller jusqu'au bout de cette recherche de vérité. Là, c'est là où on peut dire la recherche n'est pas le but de la philosophie, contrairement à ce que disait le premier Merleau-Ponty. Il disait la recherche, c'est ce qu'il y a de plus grand. Non, c'est la contemplation ce qu'il y a de plus grand. Et ce n'est pas la même chose. C'est des éléments qu'il faut que nous ayons saisis profondément de notre vie. Si on saisit ça, il y a des quantités de tentations, de séductions qu'on évite. La psychologie demeure dans l'analyse. Et ce n'est même pas une analyse philosophique. Hein. Ce n'est pas une analyse des causes. Ce n'est pas une analyse des causes. C'est une analyse du développement, du conditionnement. C'est l'analyse donc du pos, qui peut aller très loin si elle se fait dans la lumière philosophique. Si le psychologue accepte d'être un sage, il se dépasse. Il n'est plus psychologue, il est un sage. Il se sert de la psychologie et de la philosophie. Il se sert de la psychologie pour exprimer et analyser les flaques d'eau, les trous, les defectus de notre développement, tout ce qui a pu arrêter notre développement, tout ce qui a été un obstacle. Il se sert du sol, là, c'est important. C'est intéressant, moi. Et puis, il se sert de sa philosophie pour chercher les vrais moyens et les faux moyens. Discerner la causalité, l'appel de la causalité finale, distinct des séductions. La distinction constante entre la causalité exemplaire et la causalité finale. Ça, c'est propre de la recherche qui aboutit à la sagesse. Une fois qu'on a vu cette distinction, on peut se poser la question, y a-t-il une modalité de la personne humaine distincte entre le père et la mère? Je crois ceci très important, entre le père et la mère. Alors, il y a une question, le maître est-il un type de personnalité distincte de celui du sage et du père? Faut-il mettre entre le sage et le père le maître? Le maître n'est-il pas toujours un certain père spirituel? Puisque en transmettant la sagesse, il transmet une certaine vie à ses disciples. Il transmet une vie spirituelle à ses disciples. À un niveau chrétien, tout père spirituel est-il un maître? Si oui, à quel niveau et quel est-il en plus d'être un maître? Oui, c'est intéressant à voir les deux extrêmes. Paternité, le personne, parce qu'il s'agit de personne, personne du sage, c'est là indiscutable. Personne du père et de la mère. La personne du père et de la mère sont toutes les deux dépassées par celle du sage. Et ça ne s'exclut pas, parce que ce n'est pas du tout au même niveau. La paternité peut exclure la maternité, et la maternité peut-elle exclure la paternité? C'est ce qu'on voudrait aujourd'hui. Point d'interrogation. C'est intéressant, tous des problèmes très très actuels, hein, si on veut toucher ça, et si on veut le comprendre. Et on voit immédiatement tous les sophismes qui se font. Parce qu'au fond, c'est là, c'est à ce niveau-là. Et la différence, c'est que justement, il n'y a pas de solution tant que vous n'avez pas découvert la paternité de la sagesse, la personne de la sagesse. Le jour où vous découvrez le point de vue de la sagesse, alors vous découvrez qu'il y a quelque chose qui dépasse la distinction père et mère. Oui. Tous on peut dire, quelquefois, j'ai eu un père et une mère, ni l'un ni l'autre n'était des sages. Si vous devenez un sage, vous avez le droit de faire cela. Ni l'un ni l'autre n'était sage, au point de vue chrétien et au point de vue humain. Il était bon père, oh, très bon. Il réservait son héritage pour son fils. C'est par là qu'il montre sa bonté. Il n'a pas dépensé, il n'a pas dilapidé son héritage en disant après moi le déluge. Mes fils, ils n'auront qu'à se débrouiller, c'est tout. Mes fils n'auront qu'à se débrouiller. À ce moment-là, vous voyez, le père n'était pas un sage. Parce qu'il ne voyait pas plus loin que son nez. C'était lui. Et il ne voyait pas son fils, qui est un autre, et dont il est responsable, jusqu'au bout, éternellement. Et la mère aussi. extrêmement curieux, cela, et extrêmement intéressant. Vous voyez, le dépassement de la paternité et de la maternité. Vous n'avez pas de rancœur vis-à-vis de votre père ou de votre mère quand vous avez découvert la personne du sage. Vous-même, vous avez découvert ça pour vous. Vous n'avez plus de rancœur. Vous dites, oui, c'est vrai. Je n'ai pas eu un père parfait, je n'ai pas eu une mère parfaite. On n'est pas déçus. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils l'ont fait bien, leur devoir d'État. Mais évidemment, c'était plus des pères au niveau politique, au niveau d'un point de vue uniquement père nourricier, pas très bon éducateur. Mais quand même, c'était un père, il était bon. Il a gardé son héritage pour son fils. Il était bon, mais il n'était pas un sage. Alors, quand on découvre cela, et qu'on reste au même niveau que lui, on a de la rancœur. Si on n'est plus au même niveau, on n'en a pas. C'est extrêmement intéressant, ça. Vous voyez, parce que ça donne la solution de tous ces drames qui se font quand vous découvrez, par tel ou tel moyen, plus ou moins vrai, très difficile de savoir, c'est authentique, que vous n'avez pas été un enfant désiré par votre mère. Et ça se voit de plus en plus, ça, c'est très curieux. On est dans une ère de désespoir. Il faut bien dire ça. Hein. Quand son père dit qu'on a une culture de mort, c'est en réalité, on est dans un ère d'une culture désespérée. Et ce désespoir constamment, c'est assez morbide, hein, recherche le fondement de ce désespoir dans le fait que vous n'avez pas été un enfant désiré. Vous avez été comme rejeté dès le point de départ. Et ça reste. Dès que vous atteignez la sagesse, Dieu fait lever son soleil pour le bon et le méchant. Dès que vous atteignez la sagesse, vous êtes au-dessus. Mon âme vient de Dieu. Alors évidemment, le conditionnement de mes parents n'a pas été au même niveau. Il n'était pas convenient, il n'était pas parfaitement adapté à cette générosité absolue de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas des sages. Ils étaient des hommes. Elle était une femme fidèle. Mais elle n'a pas été beaucoup plus loin que l'exigence de sa maternité humaine. Il n'y avait rien de très spirituel. Alors, dès que vous avez découvert la sagesse, vous l'avez découvert pour vous. Et vous avez une sacrée miséricorde vis-à-vis de vos parents. Sacrée entre parenthèses. Je ne les juge pas, mes parents. Je ne peux pas les juger. Ils étaient avant moi. Et c'est grâce à eux que j'existe. Ils étaient le conditionnement indispensable de mon esprit. Conditionnement, pas finalité. Et c'est ça qui est très important. Quand on atteint la sagesse, je comprends que mes parents ont été un conditionnement, mais n'ont pas été une détermination vis-à-vis de mon intelligence. Mon intelligence vient de Dieu. Mais j'étais pas assez fort pour dépasser ce conditionnement. J'ai perdu du temps. On a tous perdu du temps. Tous. Conséquence du péché originel. On a tous perdu du temps. Il n'y a pas besoin de se mettre en colère. Pourquoi vous mettre en colère? C'est le lot commun. Vous avez perdu 5 ans, vous avez perdu du temps pendant 5 ans, pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est pas dramatique, hein. Rattrapez-le. La course à la vitesse. C'est passé comme sans conditionnement. Vous comprenez que vos parents étaient du conditionnement et que c'est vous. Votre personnalité actuelle, c'est vous. C'est votre travail et de Dieu. Mais Dieu n'a jamais été au ralenti. C'est vous qui avez ralenti l'action de Dieu. J'avais freiné, freiné, freiné. Pas si vite, pas si vite. Constamment, vous faites ça. Et vous le faites encore maintenant. Et vous ferez jusqu'au bout. Dieu va plus vite que vous, parce que Dieu est esprit. Il n'est pas conditionné par la matière. La matière, ça ralentit, ça ralentit. C'est lourd, c'est lourd. Vous voyez, le jugement de la finalité, de la différence entre la finalité, les déterminations de ma vie, cause formelle, cause finale, et le conditionnement se fait grâce à la sagesse. Tant que vous n'avez pas atteint la sagesse, vous ne pouvez pas faire ce discernement. Et alors vous vous irritez, vous restez sur le même plan. Vous... J'ai perdu du temps. Mais vous ne voyez pas que vous en faites aussi beaucoup perdre du temps à votre voisin, à votre voisine. Tout le monde vous perd du temps. C'est fatigant, je sais que c'est très fatigant. C'est une des choses qui fatigue le plus, de perdre du temps. Très fatigant, parce que perdre du temps, c'est en dehors de la finalité. Donc c'est un temps mort. Rien de plus lourd qu'un cadavre. C'est curieux, il pèse plus lourd que quand il était vivant. Vous avez tous remarqué ça. Un cadavre est plus lourd que lorsqu'il était vivant. Parce que quand il était vivant, c'était lui qui se levait. Quand il est mort, c'est plus lui qui se lève. Toute la vitalité intérieure disparaît. Là, il y a le poids. Le poids de la cause matérielle. Le conditionnement de la cause matérielle. Le conditionnement substantiel du corps, du cadavre. C'est étonnant, ça. Et c'est très fort. Alors, c'est important que seule la contemplation me rend victorieux de cela. Alors, la paternité humaine du Père et une certaine caractère propre à la personne. Pourquoi ? Parce que engendrer l'enfant et surtout l'éduquer, je dis surtout l'éduquer, les psychologues reconnaissent que l'influence du Père à l'égard de l'enfant est plus grande dans sa pédagogie, dans son éducation, que dans son engendrement. C'est très beau, je dirais ça. C'est une chose constatée, ça. Je vous ai déjà donné l'exemple d'Israël, dans les différents essais de pédagogie. C'est très important de comprendre ça. Alors, le fait d'être responsable du développement d'une autre personne que nous, c'est une certaine finalité. Parce que dès que je touche la personne, je touche un absolu, irréductible à moi. Et donc un absolu qui s'impose à moi, comme quelque chose de substantiel, quelque chose qui me peut me finaliser d'une certaine manière. Éduquer un enfant, c'est une certaine finalité, c'est sauver un enfant, c'est sauver un petit. En éduquer deux, en éduquer trois, en éduquer quatre, c'est quand même quelque chose de grand. Et vous voyez, c'est ça qui est très curieux, c'est que la personnalité se développe. Si vous n'avez qu'un enfant, si vous en avez deux, si vous en avez trois, quatre. Il faut interroger une mère de famille et un père de famille là-dessus. C'est très intéressant. Et de voir, quand ils comprennent, alors au point de vue chrétien, la finalité, la joie du père et de la mère, quand leur fils ou leur fille se donne à Dieu. Dieu prend le relais. Ils l'ont conduit jusqu'à Dieu. Et puis après, que les instruments de Dieu se débrouillent. Je l'ai amené jusque-là, jusqu'à la porte du couvent. Et avant, là, c'était impressionnant quand il y avait la clôture pour les grands ordres monastiques. On conduisait jusqu'à la porte s'ouvrait. faisait un pas, on entrait dans la porte se refermait. La clôture, pas pâle. Oui, on conduisait jusque-là. Et après, il y avait finalité. On conduisait jusqu'au mariage. Et après, on s'effaçait. On n'était pas une mère captative qui voulait à tout prix continuer d'éduquer son fils parce que la petite qu'il a épousée, elle n'a pas d'expérience. Tandis que la mère, elle a l'expérience, elle le connaît bien, son fils, elle le sait bien. Elle le connaît mieux que lui. J'ai entendu des mères qui me disaient ça. Je souriais intérieurement, pas extérieurement, mais je souriais intérieurement. Je connais mieux mon fils qu'il ne se connaît. J'avais envie de dire oui, sur certains points, sa gourmandise peut-être. Parce que quand le gâteau passait pour lui, la part était très grosse. Alors, ça y est, donc vous avez découvert ça. C'est assez facile à découvrir ça. La gourmandise, mais les choses profondes, ses inspirations profondes, je n'ai peut-être pas découvert du tout. Alors c'est ça, ces personnes. Qu'il soit gourmand, conditionnement, temporel, substantiel du corps, mais c'est pas terrible. Quand il arrivera à un âge un peu plus élevé, le point de vue, ça disparaîtra. Vous voyez, comme c'est difficile, hein, parce que quand on conduit la fille ou le fils au mariage, il n'y a pas de porte de clôture papale. Hein. Si le jeune couple marié était préservé de la clôture papale, alors là, il y aurait des pleurs et des grincements dedans, n'est-ce pas ? On essaie de récupérer. Mais il y a une vraie finalité. Il y a une vraie finalité de la famille. Et une finalité qui humainement est grande et qui est partielle. Qui est partielle. Sauf si le père et la mère étaient vraiment des personnes qui avaient atteint la sagesse. Alors, à ce moment-là, leur paternité s'agrandissait pour être celui qui rappelle à son fils, qui rappelle à sa fille que l'amitié humaine, c'est très grand, mais ce n'est pas une finalité parfaite. Il faut aller plus loin. C'est très rare, cela. Ça existe, mais c'est rare. Et au point de vue chrétien, ça existe aussi, puisque le mariage donne la grâce pour cela. Le mariage donne la grâce aux parents d'éduquer leurs enfants pour Dieu. C'est ça, le mariage chrétien. Ils n'éduquent pas leurs enfants pour eux. Ils éduquent leurs enfants pour Dieu, pour qu'ils puissent choisir eux-mêmes et être capables de choisir une finalité de sagesse, une finalité vraiment humaine. Et quand une mère n'est pas contente du fils qu'elle a choisi pour épouse, celle que la mère n'aurait pas choisie, le fils a le droit de dire « Maman, c'est à cause de toi, tu sais que je choisis celle-là. » C'est d'une certaine manière à cause d'elle. Si elle avait été plus aimante, il aurait aimé plus. Il aurait mieux choisi. Le choix, c'est toujours l'intensité de l'amour. Toujours. Le choix implique la foi de l'amour. Vous voyez, c'est très important d'essayer de comprendre le lien entre la personne contemplative qui est la vraie personne humaine, qui, elle, est capable d'une fécondité spirituelle. Alors, c'est là où on voit le point de vue du maître. Est-ce que le maître est une personnalité distincte du contemplatif ? Je dirais non. On est un maître si on a une personnalité contemplative, si on a atteint la sagesse. Et la sagesse demande de se communiquer, d'une manière ou d'une autre. Elle se demande de se communiquer. Donc, la personnalité du maître, c'est la personnalité du sage. Il n'y a pas deux personnalités. Parce que pour être un maître, il faut être un sage. Et la personnalité du père, au point de vue humain, demeure imparfaite tant qu'elle n'est pas achevée dans la sagesse. Quand je dis qu'elle demeure imparfaite, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe comme une vraie paternité, comme une vraie modalité de la personne, mais qui n'est pas parfaite. Et cela se voit surtout du côté éducation. C'est très rare un père qui est un maître, au point de vue éducatif. Très rare. Ça se rencontre. Très souvent, le père est plutôt cause exemplaire que sage. Parce que la sagesse demande que le maître s'efface devant la réalité qu'on contemple. Et très facilement, le père devient cause exemplaire pour ses enfants. Et quand il devient cause exemplaire pour ses enfants, il n'éduque pas vraiment ses enfants. Parce qu'il ne permet pas à ses fils et à ses filles de le dépasser. Il est cause exemplaire. On a tous vu ça, si on est un peu attentif. On voit des fils et des filles qui restent tout le temps en face de leur mère ou de leur père, comme en face d'un idole. Cause exemplaire. Ils ne le disent pas. Mais c'est les autres qui s'en aperçoivent. Eux ne le voient pas, parce qu'ils ne peuvent pas considérer que le père est cause exemplaire. Ils savent bien que ce n'est pas. Mais au fond, de fait, c'est ce qui se passe. On est dans le sillon du père. Et on considère que la chose la plus grande, c'est de faire comme lui. Mais ça se voit dans le choix du métier. Un père polytechnicien veut à tout prix que ses enfants soient polytechniciens. Moi, j'ai dégradé. C'était la conversation, je me souviens, d'un prêtre avec un autre religieux qui, lui, avait fait polytechnique. C'est personne d'ici, ne vous inquiétez pas, ni de la communauté Saint-Jean. Donc vous ne pouvez pas le connaître. Alors, il parlait de la famille, des traditions de famille. Il parlait du fils de son père. Et son frère était polytechnicien comme lui. Parce que dans la famille, on est polytechnicien. On est né pour ça. La sagesse, non, mais polytechnicien, cause exemplaire. Et le père incarnait cet homme. Et alors il parlait de ce fils, de son neveu, qui n'avait pas suivi les traditions de famille. Il avait parlé aussi qu'il y avait des religieux. Et les traditions de famille, c'était avant tout polytechnicien, pas la vie religieuse. Alors, la vie religieuse conduisait à la sagesse, le point de vue d'être polytechnicien ne conduisait pas à la sagesse. Cause exemplaire. C'est extraordinaire de voir ça. Quand on est attentif aux conversations de gens très bien, de voir les confusions entre causalité exemplaire et causalité finale. Et ça existe même dans la vie religieuse. Et ça se voit dans le dépassement de la paternité. Paternité est une paternité humaine est un développement de la personne qui demeure imparfait, qui réclame d'atteindre la sagesse, mais qui n'est pas la sagesse. C'est très important, ça. Et c'est pour cela qu'il y a paternité et maternité. Il y a une complémentarité entre les deux. Si la paternité s'identifiait à la sagesse, il n'y aurait pas de complémentarité. Parce qu'il n'y a qu'une sagesse. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tandis qu'il y a beaucoup d'amis. Et il y a des éducations diverses, des développements différents. Il n'y a pas de polytechnique. Il y a aussi autre chose. C'est très curieux de voir l'emprise des causalités exemplaires. Je prends polytechnicien parce que c'est particulièrement net. C'est particulièrement net. Mais on ferait ça pour toutes les grandes écoles. Et on verrait ça même jusqu'à celui qui, dans le temps, ça existait, et ça existe encore, de vrais paysans qui labourent leur terre. Et qui acquiert une certaine personnalité par le fait d'être en communion constante avec la cause matérielle, la terre. L'artisan qui est vraiment l'agriculteur, qui sait ce que c'est que labourer son champ. On le sait de moins en moins. À cause de la technique est tellement puissante qu'elle enlève l'artisan, elle supprime l'artisan. Ça, c'est la campagne, ça se voit très très fort, ça. Ce passage qu'il y a eu, tant qu'on a labouré la terre, tant qu'on a semé, tant qu'on a fait la moisson, et puis le jour où l'instrument est devenu tellement puissant, qu'il a tout nivelé. On loue la machine pour le temps de la moisson. Et ça coïncide, ça coïncide pas avec le temps qu'il fait. N'est-ce pas ? Forcément. Et là, il y a un problème très important à voir pour la question de la personne. Le développement de la personnalité humaine ne se fait plus. Vous voyez ? On verra ça avec le point de vue artistique. Artistique, ça se sent tout de suite. Le perfectionnement de l'instrument tue l'artisan. Ça, constamment. Quand l'instrument devient trop puissant, ça tue. Vous voyez, ça modifie le sens du travail. Et donc, ça tue l'artisan. Alors, ça, y a-t-il une personne qui est liée à l'artisan, à l'artiste ? Ici, je regarde le point de vue du père et de la mère. Ils sont complémentaires. Un véritable père ne peut être père que si la mère est vraiment mère. Une mère qui n'est plus une mère peut tuer un père. Vous voyez dans quel sens ? Peut empêcher le père d'être père. Par jalousie. Par jalousie farouche. La tigresse. Dans la famille Lion, c'est la tigresse qui fait le partage de l'aliment. Alors, je donne d'elle le meilleur morceau au Lion père. Intéressant de voir ça. Et ça donne des prototypes, causalités exemplaires assez étonnants, qu'on doit dépasser, hein, qu'on doit dépasser. Mais momentanément, c'est assez beau. C'est toujours la cause exemplaire qui, du point de vue artistique, nous aide beaucoup, mais qu'on doit dépasser. Si vous restez enfoncé dans la cause exemplaire, vous n'arriverez jamais à la sagesse. Vous serez toujours un piou-piou. Tout le temps. Au début, c'est très bon d'être novice, et à fond d'être novice. Causalité exemplaire. Forcément. On ne peut pas être autrement, mais on le dépasse. La finalité, c'est pas d'être novice. La finalité, c'est d'être un bon novice qui se dépasse pour se donner entièrement à Dieu. Et quand il se donne entièrement à Dieu, il est fils de Dieu. C'est pas la même chose d'être fils de Dieu et d'être novice. Fils de Dieu, c'est la personne. Alors, la maternité, quelle différence entre la paternité et la maternité. C'est quand même très important, cette complémentarité entre les deux. Aristote a étudié ça d'une façon très simple. Alors aujourd'hui, on ne l'accepte plus, parce qu'on ne comprend pas Aristote. La plupart des modernes lisent Aristote dans leur perspective moderne. Dans leur perspective moderne, ils n'ont pas dépassé le conditionnement. Alors ils lisent Aristote dans cette perspective-là. Alors ils disent évidemment, Aristote n'a pas compris. Parce qu'Aristote cherche les principes. C'est ça qui est très important. Quand vous regardez ceux qui se disent aristotéliciens, qui lisent Aristote dans une perspective hegélienne, dans une perspective phénoménologique, dans une perspective moderne, psychologique. Aristote n'a pas compris. Pourquoi ? Parce que Aristote cherche les principes et les modernes cherchent les lois. Alors, la loi a-t-elle le droit de juger un principe ? C'est intéressant de se poser le problème. Hein ? Est-ce que la loi a le droit de critiquer un principe ? Non. La loi reste horizontale. Antécédent, conséquent. Et le principe dépasse. Le principe est un. La loi est deux. Toujours. Alors c'est très intéressant de regarder la manière dont quelqu'un qui a été formé par la philosophie moderne, sans le savoir, il aura suivi quelques cours de saint Thomas et il dira qu'il est thomiste. Il n'est pas du tout. Il lit saint Thomas à la lumière de la philosophie moderne. Et saint Thomas ne répond à rien. Parce qu'après un cours d'interprétation de saint Thomas dans la philosophie moderne, saint Thomas devrait hurler. Et il ne hurle pas. Parce qu'il est très patient. Il est saint. C'est ça qu'il faut des maîtres vivants et des maîtres morts. Parce que les maîtres morts, ils ont bon au dos, ils ne répliquent pas. Les maîtres vivants, ils répliquent. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Vous interprétez. Vous l'interprétez en fonction de votre conditionnement. Vous n'avez pas dépassé. Bon, saint Thomas, à la suite d'Aristote, parce que là, saint Thomas suit Aristote et il cherche les causes. Parle de la paternité et de la maternité. Alors ils disent que le père atteint un principe. La mère coopère. C'est très beau, tu restes ça, de voir cette coopération. La mère est plus proche du corps, c'est vrai, que le père. Elle est le moule de Dieu. Cette expression tellement belle. On peut dire qu'elle est le moule de l'humanité. C'est encore plus vrai. Parce qu'elle est le moule du corps de Dieu. Et donc de l'humanité. Et l'atavisme est surtout fort du côté de la mère. Pas entièrement, c'est complémentaire, mais il est plus puissant, il est plus visible, il est plus net. C'est la raison profonde pour laquelle en Israël, on est juif si sa mère est juive, pas le père. Si le père est juif et que la mère est goïme, on n'est pas juif. Et ça, c'est un réalisme très fort et très vrai. C'est le réalisme d'Aristote. Alors, qu'il faut voir, puisqu'on est dans l'ordre du conditionnement. C'est ça qui est important. En réalité, le père n'est pas principe d'un principe. C'est l'âme. Or, le père n'est pas plus proche de la création de l'âme que la mère. Plus proche au point de vue finalité. Il n'est pas plus proche. Mais il est moins proche du côté de la causalité matérielle. du côté du conditionnement. Du côté du conditionnement, la mère est plus proche que le père. C'est pour ça que aujourd'hui, on regarde avant tout le conditionnement, on montre que la mère joue un rôle plus capital, c'est vrai. Donc Aristote a confondu. On est en opposition avec Aristote. Non. Si on regarde la distinction entre le conditionnement, qui se prend toujours du côté de la causalité matérielle. La causalité matérielle, le corps et conditionnement substantiel. Or, la maternité est du côté du corps. Avant tout, en premier lieu, la mère est le lieu voulu par la sagesse de Dieu, ça on peut le dire, même au point de vue philosophique. La mère est le lieu du conditionnement, de la formation du corps. Et donc, elle est plus proche, puisque l'âme est créée dans le corps. Peu importe le moment, l'âme est créée dans le corps. Si l'âme est créée dans le corps, nécessairement, la mère est plus proche. La mère coopère d'une manière plus immédiate avec Dieu, le créateur de l'âme, que le père. Du côté du conditionnement, pas du côté de la finalité. Et ça, je crois que c'est très très important de voir que la maternité implique une proximité dans le conditionnement qui est impressionnante et qui est très forte. Et c'est ça, je crois, qui caractérise au point de vue de la maternité. C'est que la mère enveloppe l'enfant, elle le porte, et elle est son lieu nécessaire. Quand l'enfant grandit, il a besoin de la philosophie de la libération. Et c'est là le premier moment de la philosophie de la libération. Si vous voulez comprendre que l'enfant ne peut plus rester dans son milieu naturel, il est tout frais. Il a besoin d'un rythme propre, vital, qui est son rythme. Jusque-là, son rythme était conditionné par sa mère, mais d'un conditionnement substantiel. Et par le fait même, il ne pouvait pas grandir entièrement selon son rythme. Oui, c'est intéressant, parce que la mémoire du corps, hein, on a dit, on l'a vu. Alors vous voyez, la mémoire du corps, il commence là, hein. Et vous avez donc tous, nous tous, nous avons été emprisonnés d'une prison maternelle, je sais bien, extrêmement belle, extrêmement touchante, mais une prison maternelle. Et peut-être que notre mère n'a pas eu les attentions suffisantes à trouver que c'était suffisant, il fallait libérer l'enfant. Libérer l'enfant et se libérer. Hein. Donc se libérer et libérer l'enfant. Ou libérer l'enfant et se libérer. Vous voyez, ça se décline de deux façons différentes. Et ça fait deux différences très différentes pour la mémoire du corps. C'est l'harmonie entre la causalité matérielle et la causalité finale. Et cette harmonie, elle a joué fondamentalement, et radicalement pour chacun d'entre nous. Alors, est-ce intéressant de nous rappeler ça ? Philosophiquement, oui, c'est très intéressant, philosophiquement. Mais métapsychologiquement, je ne sais pas. Vous rappelez que votre mère on a eu assez de vous porter, et qu'elle a dit vite, 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 qu'il se libère. Votre mère était très ennuyée, parce que, est-ce que c'est nécessaire de se rappeler ça? savoir des conséquences. Mais est-ce que la connaissance, quand c'est une connaissance d'un mal, est-ce que cette connaissance d'un mal augmente ma force ou augmente mon impuissance? Tout le problème est là, philosophiquement. Et c'est très important. Vous l'avez dépassé, ce mal, puisque vous existez. Mais il revient peut-être quand vous êtes très fatigué. Vous êtes très fatigué, vous désirez le complexe océanique. Hein, le complexe océanique, on désire retourner dans sa maternelle. Vous êtes en... Oui, mais ça, c'est un complexe océanique qui demande d'être dépassé. Et il est dépassé puisque vous vivez. Mais vous pouvez psychologiquement y revenir et rester là. Alors ça fait une angoisse. L'angoisse terrible de sortir du sein maternel. Vous vous rappelez de cette angoisse, hein? Cette angoisse terrible de sortir du sein maternel. On est passé d'un milieu maternel relativement doux à un milieu qui n'est plus du tout matériel. Alors quand c'était la couveuse électrique, ça allait encore, la couveuse électrique, elle essaie d'être maternelle. De façon très, très particulière. Hein. Et puis quand c'était sans couveuse électrique, c'était tout de suite le monde. Est-ce que le monde se réjouit parce qu'il y a un enfant nouveau qui apparaît? Quand les maternités se faisaient à la maison, oui. Toute la maison était en fait. Mais là, oui, au fond, pour chacun d'entre nous, du moins, pour moi, je suis encore née à la maison, donc j'ai eu des bouquets à ma naissance, tout le monde était en fête. Et je le ressens, ça. C'est ça qui est le mieux. Quand on est à la maternité, oui, il peut y avoir des bouquets, c'est sûr, heureusement, et on apporte des fleurs à la mère et à l'enfant, ou à la mère, puisque pour les bouquets de la mère, c'est pour l'enfant. Mais il n'est pas à la mer de la même façon. C'est curieux tout ça. Notre civilisation, n'est-ce pas, fait un progrès énorme, mais aujourd'hui, on s'aperçoit de tous ces manques. C'est curieux. Grâce à des connaissances qu'on a. Alors, il ne faut pas s'y arrêter. Il faut voir que c'est vrai, on a peut-être plus lutté que les enfants qui sont nés dans la famille. On n'en peut rien. Et votre mère n'en peut rien. On a dit non, aller à la maternité, c'est plus sûr. Si jamais il y a un accro, on pourra tout de suite sauver l'enfant. T'as dit qu'autrement, on ne pourra pas le sauver. Par exemple, on a dit, bon, c'est sûr, sauver l'enfant. C'est très curieux de voir le point de vue de ce qu'est la mère. Elle a un droit naturel, radical sur l'enfant. Mais c'est du côté du conditionnement, c'est du côté du milieu. C'est pas du côté de l'âme. C'est pas du côté de sa détermination. Et tous, nous avons eu cette conquête à faire de conquérir notre autonomie vitale. Et c'est ça qui est si impressionnant dans la naissance. C'est qu'on passe d'un milieu de chaleur naturelle, humaine, à un milieu terriblement froid, affectivement. Et on s'en ressent, ça ne peut pas être autrement. C'est impossible autrement. Alors, on s'en ressent, vous voyez, tout ce que j'ai dit sur la mémoire du corps. Et c'est là où on doit commencer. Elle est antérieure, puisque c'est déjà de la conception, mais c'est surtout là. Parce qu'il y a un passage d'un milieu maternel où on est unique. Ça, c'est le privilège. On était unique. À un moment donné, on était unique. Tout le monde attendait un enfant qui allait naître. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et la mère l'attendait. Elle était tout entière pour nous. Ça n'a pas duré. Forcément, ça n'a pas duré. Mais il y a eu ce moment-là. Alors, il ne faut pas le regretter, parce que j'espère que depuis, on a quand même avancé. Mais peut-être qu'on n'a pas avancé et qu'on regrette ce moment-là et qu'on accuse notre mère de ne pas avoir été suffisamment... On l'accuse. Jusqu'où c'est la vérité, ça, c'est un autre problème. Mais c'est intéressant d'essayer de comprendre cela philosophiquement et de le voir. La paternité et la maternité. La mère est captative, mais naturellement, elle doit l'être, selon la volonté de Dieu, la sagesse de Dieu. Dieu a voulu que ce soit comme ça. C'est quand même très extraordinaire. Et on fait abstraction de ça quand on n'accepte pas le péché originel. C'est très curieux. On a de la peine aujourd'hui à voir combien l'enfant est lié à la nature humaine. On voudrait tellement supprimer la nature et faire que nous soyons tous des individus avec notre nature propre. On voudrait que notre nature soit individuelle. Et donc que notre nature individuelle soit notre personne. Et on n'accepte pas ces distinctions nature, individu, personne. Ils sont pourtant des niveaux distincts. Et qu'on veut comprendre à quel niveau se situe tel complexe, tel manque. Est-ce qu'il se situe au niveau de la personne? Est-ce qu'il se situe au niveau de l'individu? Est-ce qu'il se situe au niveau de la nature? Et ça seul, le philosophe peut faire la distinction. Psychologiquement, vous ne pouvez pas, puisque vous êtes dans l'ordre de l'exercice. Et vous n'êtes pas dans l'ordre des principes. Vous êtes dans l'ordre du conditionnement. Or, le conditionnement est individuel. Tout conditionnement est individuel, puisque le corps est le conditionnement substantiel. Donc, tout conditionnement dépend du corps. Tout conditionnement est individuel. Tous. Et je ne fais pas la distinction. Je ne peux pas faire la distinction au niveau du conditionnement. Et ce conditionnement est distinct de la personne dans la mesure où je distingue l'individu de la personne. Une distinction beaucoup plus subtile, celle-là. Mais qui est capitale. Vous voyez, ça montre que la distinction, au point de vue de la personne, entre le père et la mère, est une distinction qui se situe au niveau du conditionnement substantiel. Donc, c'est très radical, mais c'est au niveau du conditionnement. La paternité comme la maternité demandent d'être dépassées par la sagesse. Il n'y a pas de maternité qui est sagesse, sauf la maternité divine. C'est la seule maternité qui est sagesse. C'est pour ça que c'est la seule maternité qui est contemplative, celle de Marie. Mais aucune autre maternité n'est sagesse. Elle demande d'être dépassée. Et c'est plus difficile de dépasser la maternité humaine que de dépasser la paternité humaine. Parce que le conditionnement substantiel est plus radical. Et plus difficile. Ça, c'est vrai. Psychologiquement parlant, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on est beaucoup plus enraciné. Une mère, c'est elle qui garde les coutumes, qui garde la tradition, qui garde l'enracinement. Ça, c'est le point de vue maternel, c'est l'enracinement. Mais c'est difficile de dépasser cet enracinement pour découvrir la finalité qui nous donne une autonomie absolue. Mais je crois que là, il y a des problèmes. On pourrait développer ça, hein. Ça vaudrait la peine, parce que ça montrerait que ce conditionnement radical, c'est dans la maternité qu'on doit le comprendre. Et quand je vois, au point de vue philosophique, le corps conditionnement substantiel, où vais-je le trouver dans ce qu'il a de plus absolu dans la maternité? La mère en a quelque chose d'unique. Et elle peut dire au père, et tu ne connais pas ce que ça représente. Et le père doit reconnaître qu'il ne connaît pas que ça représente. Et d'une certaine manière, celui qui atteint la sagesse,